France Culture Midi 31. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le président américain va reconnaître ce soir Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Les mises en garde se sont multipliées dans le monde. Les délégations palestiniennes et jordaniennes de la Ligue arabe demandent une réunion d'urgence qui pourrait avoir lieu ce samedi au Caire. Le président turc en appelle à un sommet des dirigeants des principaux pays musulmans le 13 décembre prochain à Istanbul. Précision d'Éric Biegala dans un instant. Correspondance d'Étienne Monin à Jérusalem. Emmanuel Macron est en Algérie. Le président français dit s'y rendre en ami, refusant d'être otage du passé douloureux entre Paris et son ancienne colonie. Et puis nous reviendrons dans la dernière partie de ce journal sur la mort de Johnny Hallyday, des suites d'un cancer à l'âge de 74 ans et sur les très très nombreuses réactions qu'elle suscite depuis le début de la matinée, dont nous parlerons donc avec Antoine Maret, François-Pierre Noël, évocation de Yacine Bouzard et de Mathieu Conquet dans la dernière partie de la Grande Table. Olivia Chesler.
Les mémoires de Jacques Julliard, notre invité, une bio-anthologie où l'historien et éditorialiste Amarian revient sur ses engagements à lui, côté social, côté politique, mais aussi sur la capitulation d'une gauche en bataille. Selon lui, on en reparle dans la deuxième partie de l'émission. Mais Jacques Julliard est déjà avec nous pour suivre votre journal.
La plupart des capitales étrangères mettent donc en garde depuis hier soir le président des États-Unis qui, selon un responsable américain, va reconnaître ce soir Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. On va revenir sur la portée de ce geste dans un instant, mais d'ores et déjà donc de très nombreux responsables condamnent ou font part de leur inquiétude depuis le président palestinien Mahmoud Abbas qui met en garde Donald Trump contre les conséquences dangereuses d'une telle décision sur le processus de paix, mais aussi sur la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde, jusqu'à la Chine qui se déclare inquiète et qui dit craindre une escalade dans la région, en passant par la Turquie qui évoque la perspective de précipiter la région dans un incendie, et le pape François qui affirme qu'il ne peut taire sa profonde inquiétude, il qui adresse un vibrant appel pour que tous s'engagent à respecter le statu quo de la ville en conformité avec les résolutions pertinentes des Nations Unies. Hier donc, un responsable américain confirmait donc que le 6 décembre 2017, le président Trump reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël. À cette occasion, il va, dit-il, mettre en avant la reconnaissance d'une réalité à la fois historique et contemporaine. Éric Biegala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Donald Trump qui devrait donc ordonner de préparer le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, mais il ne fixera peut-être pas, sans doute pas, de calendrier pour ce déménagement. Que doit dire donc Donald Trump exactement de nouveau par rapport à ce qu'était jusqu'à présent la position américaine ?
Eh bien, sur le papier, pas grand-chose de neuf finalement, puisque, vous le savez Antoine, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et le déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem sont inscrits dans le corpus législatif américain depuis 12 ans, depuis 1995. Il s'agit là en fait d'une vieille lune des républicains, et c'est le Congrès à majorité républicaine qui avait édicté fin 95, dans les tout derniers mois de la première présidence Clinton, cette résolution quant à la reconnaissance de Jérusalem. Sauf que la résolution avait été assortie d'un droit de renonciation que le chef de l'exécutif américain, le président, pouvait faire valoir tous les 6 mois, fonction d'impératif dit de sécurité nationale. Alors ce droit de renonciation, il a donc été utilisé 22 fois, tant par des présidents démocrates, Bill Clinton ou Barack Obama, que républicains. George W. Bush y a également souscrit, malgré sa promesse pendant sa propre campagne présidentielle d'effectivement reconnaître Jérusalem comme capitale. Quant à Donald Trump, il y a lui aussi souscrit une fois au printemps dernier et devrait d'ailleurs y souscrire à nouveau tant que la nouvelle ambassade ne sera pas effectivement construite à Jérusalem, ce qui pourrait encore prendre quelques années. Reste que la simple annonce d'une reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État Israël et par le chef de l'exécutif américain serait un retournement complet de la politique américaine sur la question, parce qu'au-delà de la résolution du Congrès qui n'a donc jamais été mise en œuvre, la position officielle de Washington a en effet toujours été que le statut final de Jérusalem devait être défini dans le cadre d'une solution à 2 États pour les Israéliens et les Palestiniens, ces derniers revendiquant Jérusalem-Est comme la capitale du futur État palestinien.
Encore une question peut-être sur Donald Trump lui-même. Pourquoi une telle annonce ce jour ?
Alors, il s'agit sans doute pour lui d'abord de tenir une promesse de campagne, et l'annonce devrait en tout cas ravir la partie la plus conservatrice des électeurs républicains ainsi que les chrétiens évangélistes qui constituent le cœur de son électorat. Mais peut-être y a-t-il aussi derrière cette annonce le constat que le droit de renonciation pour motif de sécurité nationale est invoqué en vain. Il y a longtemps été invoqué en effet pour permettre aux administrations américaines successives de ne pas gêner un éventuel processus de paix qui serait en cours. Or, force est de constater qu'un tel règlement négocié du différend israélien israélo-palestinien est aujourd'hui de l'ordre au mieux de l'hypothèse. Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, est censé depuis 6 mois conduire une tentative pour tenter de renouer les fils d'une telle négociation, sans résultat tangible pour le moment.
Merci beaucoup Eric Bigala. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou reste totalement silencieux sur la question de Jérusalem. En tout cas, il est resté silencieux ce matin lors d'un discours qu'il a prononcé au cours d'une conférence diplomatique. Israël a pris en tout cas des mesures de sécurité pour prévenir des violences éventuelles côté palestinien. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Quel est le climat ce matin à Jérusalem ?
Bien, côté palestinien, si on regarde la vieille ville de Jérusalem, c'est plutôt un climat morose. La pluie tombe en cascade. La déclaration à venir de Donald Trump envahit les esprits. Mais pour autant, pas de signe visible de tension. Le déploiement policier reste limité. Israël craint surtout la journée de vendredi avec la grande prière. L'armée a été placée en préalerte dans la vieille ville. Donc, la partie annexée de Jérusalem, les Palestiniens interrogés rejettent en bloc la vision du président américain. L'enjeu est à la fois national. Jérusalem-Est représente le rêve palestinien d'une capitale pour un État, mais il est aussi religieux. Les habitants de la vieille ville présentent la mosquée Al-Aqsa comme une ligne rouge. Pour eux, les trois religions ont aujourd'hui leur place dans le cadre international fixé par l'ONU. Briser ce statu quo pour placer le fondement des trois religions monothéistes sous souveraineté israélienne, ce serait pour ces Palestiniens une grave erreur. La mosquée Al-Aqsa de ce côté-ci reste le dernier ciment. Le lieu a une puissance mobilisatrice que les leaders politiques palestiniens n'ont pas. C'est de là que sont parties les grandes vagues de violence en 1996, 2000 et 2015.
Alors le Premier ministre n'a rien dit ce matin. Étienne, comment est-ce qu'on voit la chose côté israélien ?
Ben, non seulement il a rien dit, mais il a même demandé à ses ministres de ne pas faire de déclaration. C'est donc une position de prudence en attendant ce grand événement. Il y a eu tout de même quelques déclarations du côté de certains ministres. Le ministre d'extrême droite de l'éducation nationale a appelé les autres pays à suivre le mouvement. Pareil pour le ministre des Transports. Sur cette position, le centre rejoint la droite. Le leader du parti Yesh Atid appelle même maintenant à une reconnaissance élargie du plateau du Golan.
Merci beaucoup Étienne Monin, vous étiez en direct de Jérusalem. Jacques Julliard, bonjour.
Bonjour.
Invité de la dernière partie de la Grande Table. Un petit mot là-dessus quand même, comment vous interprétez la décision du président américain aujourd'hui ?
Moi je crois qu'il va falloir s'en convaincre. Trump est un homme qui ne change pas. On pensait que l'exercice du pouvoir allait beaucoup influer sur sa rigidité, la radicalité de ses positions. Ça n'est pas le cas. Il reçoit des avis divers, il fait même parfois mine de les écouter. En réalité, il continue, et pour une raison qui est bien connue, c'est que son électorat, celui qui l'a fait gagner, continue d'adhérer à cette politique qui est extrêmement dangereuse, qui est une politique au bord du gouffre, mais qui satisfait une sorte d'ego américain qui avait été humilié au cours des présidences précédentes.
Alors effectivement, bon, il y a cette histoire de Jérusalem, mais il y a d'autres dossiers aussi sur lesquels Trump avance. Un président qui tient ses promesses, ça devrait pourtant paraître quelque chose de positif. Or, c'est là où il inquiète précisément. C'est un paradoxe.
Oui, c'est là le paradoxe, parce qu'il a été élu par surprise, je dirais de ses même de ses partisans. Et donc, le fait qu'on le monde est fait d'hommes d'État qui réagissent à l'événement, ne comprend pas un homme qui ne réagit pas à l'événement, mais qui réagit à son propre intérêt électoral et aussi à son propre tempérament, à son caractère. Ce qui s'exprime, ça n'est pas, comme on dit, une administration qui, on voit bien très souvent, est un peu en arrière par rapport au président, mais une personnalité. Il est vrai qu'il n'est pas le seul.
Et souvent par tweet aussi, par tweet.
Et qui s'exprime non pas comme un président avec les moyens qui sont donnés à un président, mais comme un individu, comme vous et moi, qui le matin exprime ses humeurs grâce à
son... Plutôt comme vous, parce que moi non. Merci beaucoup Jacques Julliard. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition. Un mot de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. C'est la première visite en tant que président. Il dit s'y rendre en ami, refusant d'être otage du passé douloureux entre Paris et son ancienne colonie. Nous passons donc au deuxième grand sujet du jour, la France qui perd son plus grand chanteur, si l'on en croit Pascal Nègre, ancien patron de la musique de la maison de disques Universal Music France. Il faut créer un Johnny Day, qu'on lui donne des funérailles nationales, c'est ce qu'affirmait de son côté le journaliste et critique musical Philippe Manœuvre. Réaction innombrable donc ce matin après l'annonce de la mort de Johnny Hallyday, des suites d'un cancer. Il avait 74 ans, 57 ans de carrière dans tous les plus grands lieux de l'Hexagone du Stade de France. Au Champ de Mars, plus de 100 millions de disques vendus, 10 victoires de la musique, l'idole des jeunes, puis des moins jeunes, a traversé donc toutes les époques, celles des débuts du rock'n'roll, des yéyés, de la variété plus mainstream, avec notamment Michel Berger, Jean-Jacques Goldman dans les années 80, pour revenir avec bonheur, avec ces dernières années, aux sources même du blues et du rock. On va revenir sur tout ça. Évocation pour commencer des racines musicales de Johnny. Il en parlait après être revenu de son coma, c'était en 2009, et il donnait une interview donc en février 2011 sur TF1 où il parle du néant d'où il revenait, et ce néant lui a fait retourner à ses racines.
Du néant dont je venais, j'ai eu très peur. D'abord, j'ai eu très peur de ne plus pouvoir chanter, de ne plus pouvoir faire le métier qui me maintient debout. Et j'étais indécis, j'avais envie de faire un album, je ne savais pas si j'étais capable de le faire non plus. Et puis je cherchais avec qui j'aurais pu le faire. Je voulais retrouver les racines de ma musique. Ce qui a fait que je suis Johnny Hallyday aujourd'hui, c'est-à-dire quand j'ai commencé à chanter la musique qui me tient à cœur, c'est-à-dire le rock'n'roll, le blues qui est fondamental pour la musique que je fais, et tout en conservant quand même ce qui est accessible au public. Et Laetitia m'a suggéré Mathieu Chédid, ce qui est vrai, qui est un guitariste hors pair. Vous savez, on a les mêmes héros, Mathieu et moi. On a Jimmy Page, Jimi Hendrix.
Mais je ressemble à quoi ? Mais je ressemble à quoi ? Avec cette guitare dans le dos. Ah, oh. Non, jamais, 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 non. Non, jamais, jamais, jamais. Je ne pourrais jouer. Non, jouer comme toi. Hey, go.
Et j'ai même vécu pendant longtemps avec Jimi Hendrix à l'époque. Je l'avais engagé pour faire ma tournée, il n'avait pas encore enregistré d'album. Et on était partis comme ça en tournée pendant un an. Et je suis devenu très ami avec Jimmy.
Hey Joe, cours pas comme ça, dis y a pas le feu chez toi. Hey Joe, viens dire bonjour, t'en mourras pas.
Et donc, avec Mathieu, je retrouvais les racines un petit peu de la musique que j'avais perdue un peu à force de... Vous savez, les maisons de disques veulent toujours vous faire faire des choses plus commerciales. Et moi, je m'étais un peu perdu dans tout ça. Et j'avais besoin de retrouver mes racines pour avoir justement envie de refaire ce que j'avais perdu.
Voilà, les racines de Johnny. Évocation signée Yacine Bouzard. Bonjour Mathieu Conquet.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Johnny qui n'a pas été dit depuis ce matin sur toutes les antennes? Peut-être mettre en rapport une forme de vide existentiel mise à la disposition finalement d'un public. Être Johnny Hallyday, disait-il dans une interview au Monde en 98, c'est un métier. Je le fais sérieusement en essayant de mon mieux de faire plaisir aux gens.
Alors évidemment, la mort de Johnny, même attendue depuis quelque temps, laisse un vide, ce qui fait la singularité de Johnny par rapport à d'autres chanteurs qui eux aussi ont chanté le rock'n'roll, comme par exemple les Chaussettes Noires au même moment. C'est peut-être la part de vide laissée en lui, l'absence du père sur laquelle les biographes et les paroliers reviendront, puisqu'au départ Johnny se présente comme un fils d'Américain, comme un Français alors qu'il est belge, même s'il prendra la nationalité française ensuite. Le vide de ses interviews, parfois, Emmanuel Laurentin rappelait ce matin que dans une de ses premières interviews, on interrogeait Johnny sur les blousons noirs et il disait « je ne suis ni pour ni contre ». Il y a une forme d'absence de choix, un vide qui a permis au public d'investir Johnny Hallyday, qu'il soit de droite ou de gauche, à une possibilité offerte à chacun de se projeter, de projeter ce qu'il souhaite sur une Amérique idéale. idéalisé, sur ce que Daniel Rondeau a appelé sa destroyance, sur sa propre solitude. Ça, c'est le paradoxe de l'homme des foules qui n'aura fait que chanter sa solitude. D'ailleurs, il dit beaucoup plus souvent « je » que nous, Johnny. Vide qui a permis à tout un chacun d'écrire son autoportrait de Johnny.
Je suis fier, je suis bon, on peut dire généreux. Je suis moche, je suis con, quand je me prends au sérieux. Je suis grand, je suis roi, quand j'arrive sur la scène. Je suis qui, je suis quoi, quand je te fais une scène. On m'a fait tant d'autoportraits.
On m'a fait tant d'autoportraits que je ne sais plus vraiment qui je suis, parole de Maurice Lindet. Ça, c'était une chanson offerte gratuitement toute seule en 2011 pour annoncer la prochaine tournée de Johnny Hallyday. Johnny, sorte de miroir ambulant qui existe en rêve et fait irruption dans le réel. Je pense par exemple au film de son ami, le comédien, réalisateur Jean-François Stévenin, qui dans son film Mishka en 2002, le faisait apparaître entre mythe et réalité triviale. Il y avait un personnage qui ressemblait un peu à l'idiot du village et qui disait, dès qu'il entendait un hélicoptère, dit, ah, ça c'est mon copain Johnny, à chaque fois qu'il passe par là, il vient me dire bonjour. Évidemment, personne ne le croit, sauf que à la fin, qui voit-on apparaître? Johnny en personne, qui est appareil. Et s'est imposé avec les années une sorte de méta-Johnny, capable en 76 de tenter une adaptation de Hamlet de Shakespeare. Je vous recommande Le vieux roi est mort, le titre d'ouverture. Johnny a chanté sa propre naissance, même, avec les mots de Françoise Sagan, quelques cris. Il a commenté sa vie au travers des chansons, je pense à la face B de Que je t'aime, Voyage au pays des vivants, qui était écrit par Mickey Jones, son guitariste attitré entre de 65 à 74, et il hurle « Je ne recommencerai jamais ce que j'ai fait ». Tautologie et profondeur confondues, le cycle se ferme, Johnny ne montera plus sur scène.
Voilà, un vide effectivement qui occupe beaucoup de place. Merci Mathieu Conquet. Il y a un autre aspect de son œuvre qui est important à souligner sans doute, le fait qu'il ait importé en France de nombreux genres, notamment des États-Unis, mais pas seulement, sans jamais réussir à percer aux États-Unis, mais pas seulement, Antoine Marette.
Effectivement, c'est le paradoxe Johnny, une passion dévorante pour les États-Unis sans réciprocité. Cette passion pour les États-Unis, c'est d'abord ce pseudonyme, Jean-Philippe Smet, choisi comme nom de famille Hallyday, en référence au danseur Lee Hallyday, qui incarne à ses yeux le rêve américain. Celui-ci lui donne le prénom de Johnny pour en finir avec Jean-Philippe Smet. Les références aux États-Unis sont récurrentes dans son œuvre. Les grands espaces, la liberté, une certaine forme de modernité. Parmi ses tubes les plus connus, on citera Quelque chose de Tennessee, en hommage au dramaturge Tennessee Williams. Son album Hollywood, sorti en 79. Il a également recyclé des tubes du rock américain comme The House of the Rising Sun, devenu le pénitencier. Lui-même habitait depuis de nombreuses années à Los Angeles, où il était quasi inconnu. Alors qu'il soulevait les foules en France, un producteur américain expliquait récemment qu'il arrivait à l'aéroport de Los Angeles totalement incognito. Personne ne prenait de photos ou ne lui demandait d'autographe. USA Today avait d'ailleurs écrit ironiquement à propos de Johnny Hallyday, la plus grande rockstar dont vous n'avez jamais entendu parler. Alors comment expliquer ce paradoxe? D'abord, Johnny n'a chanté essentiellement qu'en français. Certes, cela n'a pas empêché Charles Aznavour ou encore Edith Piaf de s'exporter outre-Atlantique, mais en jouant à fond la carte franchouillarde, un peu rétro, alors que Johnny Hallyday cultivait une américanité qui laissait les Américains dubitatifs, comme s'il voyait dans ce français aux allures de cow-boy une contrefaçon un peu grossière. Sa disparition laisse d'ailleurs la presse américaine plutôt indifférente. Un article tout de même aujourd'hui dans USA Today avec ce titre « L'Elvis français Johnny Hallyday meurt à 74 ans ».
Merci Antoine Marette, merci bien. On revient sur les réactions qui sont donc innombrables depuis que la mort a été annoncée au milieu de la nuit. Dans tous les milieux, dans toutes les générations, beaucoup de voix s'expriment. C'est l'impression que finalement Johnny faisait partie du paysage familier de la France et depuis longtemps qui domine ce matin, François-Pierre Noël.
Un frère, une idole, un ami, un monument. L'impact de Johnny Hallyday sur la France est considérable. Parmi les réactions, on a Benoît Hamon qui compare sa mort à la Tour Eiffel qui s'éteint. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, parle de Johnny comme d'un membre de sa famille qui s'en va. Allumer le feu, l'envie, quelque chose de Tennessee. Tous les Français connaissent ses tubes. Johnny, c'était un personnage contesté, mais qui ne laisse personne indifférent. Il se lance dans les années 60. Ses premiers fans sont en grande majorité des baby-boomers. Ils sont nombreux, jeunes et passionnés. Il l'a dû les suivre ses aventures, comme son service service militaire et ses différents mariages. C'est un artiste populaire, donc souvent décrié par certains intellectuels. Mais les sociologues qui ont travaillé sur le mythe Johnny parlent d'un peuple à l'idée. Il rassemble les profs, les ouvriers, les commerçants, la France en quelque sorte. Le point fort de Johnny, c'est surtout sa capacité à s'adapter aux demandes de son public. Même au moment où sa carrière est un peu et au plus bas, hein, comme à la fin des années 70, il fait appel à Michel Berger et Jean-Jacques Goldman, deux jeunes artistes populaires de l'époque, pour écrire ses chansons, et le phénomène Johnny redémarre. Dans ses concerts, on retrouve des trentenaires, des quinquagénaires et même des septuagénaires. Après sa mort cette nuit, hein, même la génération 2000, celle qui n'a pas vraiment connu les grandes années de Johnny, salue le personnage. On peut lire sur les réseaux sociaux des messages d'adolescents, par exemple. Je n'étais pas du tout fan de Johnny, mais il était une légende. D'autres jeunes parlent de lui comme d'un personnage faisant partie de nos vies. Ses musiques, tout le monde les connaît. Tous les Français ont perdu donc ici une idole.
François-Pierre Noël, merci beaucoup. Et ce matin, la ministre de la Culture évoquait la possibilité d'un hommage national dans sa première réaction. D'ailleurs, Emmanuel Macron affirmait qu'à travers les générations, il s'est gravé Johnny Hallyday dans la vie des Français, ce que vous disiez à l'instant, François-Pierre, et que donc tout le pays est ce matin en deuil. Frédéric Seitz, comment se présente cette équation hommage national à Johnny pour le chef de l'État ?
Tout le pays est en deuil, écrit Emmanuel Macron dans ce communiqué envoyé cette nuit à 3h11. Mais au-delà des évidences de circonstances et des formules classiques, comment matérialiser ce deuil ? Faut-il un hommage national présidé par Emmanuel Macron ? Une telle cérémonie sera d'ailleurs organisée en la mémoire de Jean d'Ormesson, vendredi matin, dans la cour des Invalides. Ou bien faut-il aller jusqu'aux obsèques nationales, une cérémonie encore plus solennelle, protocolaire, comme ce fut le cas pour Aimé Césaire en 2008. L'Élysée, pour l'instant, affirme ne pas avoir tranché. La présidence attend de dialoguer avec la famille de Johnny Hallyday, qui aura évidemment le dernier mot. On comprend pourtant le double écueil qui se présente en matière de communication. On sait l'Élysée très attentif au message qui sera perçu. Ne pas en faire suffisamment, cela donnerait l'impression de passer à côté de l'émotion populaire, voire cela symboliserait un certain snobisme. Mais en faire trop, décréter une cérémonie nationale d'obsèques à la manière de celle organisée jadis pour Pasteur, pour Paul Valéry ou pour Colette, ce serait prendre le risque de paraître céder à une forme de démagogie, voire de relativisme. Voilà donc l'équation qui se pose maintenant à l'exécutif.
Merci Frédéric Seitz. Jacques Julliard, peut-être un petit mot là-dessus, sur cet hommage national. Est-ce que vous pensez qu'il faut honorer nationalement Johnny Hallyday ?
Que la France se reconnaisse en lui, comme d'ailleurs elle se reconnaissait dans Jean d'Ormesson, de manière différente.
Mais, oui, mais, il a vendu plus de disques quand même. Oui.
Mais au-delà, au-delà de leur fan proprement dit. En revanche, faire une cérémonie nationale comme pour Pasteur ou pour des gens comme ça, alors qu'on ne l'a pas fait pour Édith Piaf ou Charles Trenet, je trouve que ce serait aller au-delà du convenable, comme on disait autrefois.
Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, finalement, que ce qui est plus en surface, pas forcément d'ailleurs négativement, mais ce qui est plus en surface a plus de chances de passer dans les canaux, d'être connu que la pensée, la construction intellectuelle des choses et l'analyse.
La vie intellectuelle et la vie médiatique sont deux choses qui se rencontrent, et de plus en plus, tant mieux, mais qui sont tout de même de nature différente. Et le type de pénétration de l'un et de l'autre dans la conscience de chacun est différente. Il est évident que Johnny, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on l'a forcément entendu. Un grand écrivain, c'est différent. Si on ne l'a pas lu, eh bien, quelque chose nous en a manqué, mais ça reste quand même du patrimoine national. Et je suis frappé que, puisqu'on a comparé ces deux personnages à cause de la proximité de leur mort, c'est que l'immensité de l'émotion suscitée par l'un et par l'autre, d'une manière différente, en France, contraste avec ce qui vient d'être dit par notre chroniqueur à l'instant, à savoir que à l'étranger, leur rayonnement ou l'émotion suscitée par leur mort est quand même beaucoup plus limitée.
On se souvient, Jacques Julliard, de ces images de Johnny Hallyday dans un meeting de Jacques Chirac en 88, chanté à ce moment-là pour le candidat, par rapport à ce peuple Hallyday, comme l'évoquait François-Pierre Noël à l'instant, plutôt ouvrier, plutôt instit. Est-ce qu'il y avait là-dessus un hiatus, un décalage entre l'homme et ses idées ? Il disait « je ne suis pas un gaucho » et ceux qui l'écoutaient et qui l'appréciaient particulièrement.
Il n'était pas gaucho, évidemment. Pour autant, moi j'ai toujours été frappé, moi j'ai jamais été Johnny, mais j'ai toujours été frappé par le fait que des gens qui étaient plutôt des intellos ou des gens de d'un niveau social très supérieur à celui que vous dites, étaient tout de même fascinés par Johnny. Je pense à quelqu'un, une grande journaliste morte depuis un certain temps, Françoise Giroux, qui ne jurait que par Johnny.
Par exemple, il y a U et Raffarin en même temps, qui sont des fans de Johnny, Robert U et Jean-Pierre Raffarin.
Voilà,
ça,
voilà.
Ça surprend, quoi, quand même.
Écoutez, ça veut dire que le vide qui a été évoqué il y a un instant, qu'on ressentait parfois dans ces interviews, permettait au personnage Johnny, je dirais à l'institution Johnny, d'accueillir les publics les plus divers. C'est ça qui fait quand même de Johnny quelqu'un de différent de beaucoup d'autres chanteurs, sans, à mes yeux, avoir figuré parmi les plus grands.
Ne bougez pas, Jacques Julliard, on va parler de l'esprit du peuple selon vous et non selon Johnny Hallyday. D'abord, un mot de météo, Antoine.
Voilà, un ciel qui reste gris sur la moitié nord, du soleil au sud, température 3 à 15 degrés. Cette édition a été réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.